Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Henri Laurence et Gilles Weinstein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous présenter votre livre « L'Europe et l'Islam, 15 siècles d'histoire » publié chez Odile Jacob en février 2009. Une somme historique qui réunit trois auteurs, Henri Laurence du Collège de France, Gilles Weinstein également du Collège de France et John Tolan de l'Université de Nantes. C'est un livre écrit à trois, du moins dans son introduction. Ensuite, chacun a traité la partie dont il est en fait le spécialiste. Vous proposez à vous trois un peu plus qu'un survol de 500 pages sur 15 siècles d'histoire, entre l'histoire de relations entre l'Europe et l'islam. L'ouvrage couvre trois périodes, le Moyen-Âge, ce que les historiens appellent aussi l'époque moderne, et la troisième période, l'époque contemporaine. Trois périodes qui correspondent à vos spécialités. Pour vous, Henri Laurence, il s'agit du monde arabe contemporain, et pour vous, Gilles Weinstein, de l'histoire turque et ottomane. Et le domaine de recherche de John Tolan et le monde musulman contemporain. Avec moi aujourd'hui en studio, deux de ces auteurs, donc Henri Laurence et Gilles Weinstein, collègues au Collège de France et amis de longue date.
Néanmoins amis.
Alors vous avez voulu écrire un livre d'histoire un petit peu différent, un essai, dans la mesure où vous avez voulu rendre compte surtout de la complexité des situations, des enjeux et des héritages sur le long terme. C'est probablement une commune vision de l'Europe et de l'islam qui vous a réunis. Alors peut-être pour commencer, pouvons-nous préciser ce que vous entendez ou ce que vous mettez sous ces deux vocables d'Europe et d'islam dans votre ouvrage. Alors, qu'est-ce que l'Europe, ici, dans ce livre, en tant qu'objet historique ? Qui des deux veut commencer ?
Bon,
Gilles Weinstein, un peu
petit mot. Peut-être quand même, si vous permettez, revenir sur la présentation du livre. Cette question des rapports entre l'islam et l'Europe, on a beaucoup tendance à la voir d'un point de vue assez théorique et assez abstrait, et notamment avec tout le retentissement de l'essai sur le clash entre les civilisations, l'essai de Huntington qui a fait beaucoup de bruit. Donc nous avons eu le souci d'opposer à ces discussions trop théoriques et trop idéologiques, la présentation plus empirique de ce qui s'est passé. Nous avons prétendu parler de ce qui s'est passé avec, malgré tout, le fait qu'on ne peut pas dire tout ce qui s'est passé. Donc on a été amené, malgré tout, à essayer de formaliser une certaine interprétation de ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous disons que nous avons fait un essai, puisqu'il y a, à travers les trois essais, on n'a fait pas un essai, mais trois essais, les interprétations nous avons eues les uns et les autres. Maintenant, après ce préambule un peu long...
Non, mais qui est nécessaire, parce qu'effectivement, c'est une histoire vivante.
Cette notion d'Europe. L'Europe, c'est une notion géographique, et pour ce qui me concerne, je l'ai prise comme telle. Mais en même temps, on s'aperçoit, dès qu'on réfléchit un peu sur la question, que lorsqu'on parle en général des racines de l'Europe, du rapport entre l'Europe et l'islam, l'Occident et l'islam, on parle en fait d'une Europe réduite. On parle de l'Ouest et du Nord-Ouest de l'Europe, de cette Europe qui a prétendu incarner l'Europe en étant... Et ça, c'est une notion qui apparaît au Moyen-Âge et qui reste très vivace à l'époque moderne, en étant finalement la Christianitas, c'est-à-dire la chrétienté. Bon, bien sûr, il y a des chrétiens en dehors de l'Europe, mais ce sont des chrétiens qu'on a tendance un peu à oublier, en tout cas pendant longtemps, et qu'on a tendance aussi à suspecter, n'est-ce pas, d'hérésie ou d'hétérodoxie, en tous les cas. Bon. Donc, par rapport à ces points de vue, nous avons voulu rappeler, et en particulier j'ai tenté de rappeler dans la partie du livre qui m'incombait, que l'Europe géographique, elle ne se réduit pas à ça, et qu'il y a une partie de l'Europe et qui n'est pas négligeable, en tous les cas sur le plan purement géographique, qui représente peut-être un tiers ou un quart de l'Europe selon les périodes, et qui est non pas musulmane, mais sous domination de l'islam, qui est sous domination pendant plusieurs siècles, correspondant à cette période moderne, et les choses ne commenceront à changer très sensiblement qu'à la fin de la période moderne, une Europe qui est occupée, qui est dominée par un grand État, un État impressionnant et qui impressionne tout le monde, l'Empire ottoman.
Henri Laurence, allez-y. Oui.
La situation était un peu différente dans la mesure où l'objet historique Europe, il est un acteur dans la période où je commence. Je veux dire, les gens se disent européens et Europe est utilisée dans le vocabulaire puisque je commence au milieu des 18e
siècle. On va revenir après dans les détails.
Tandis que, évidemment, si on prend la partie de John Tolan ou même un peu ta partie, c'est presque un anachronisme à certains moments.
Que de parler d'européens ou d'Europe.
Oui, d'autant plus, si je peux ajouter une chose, du point de vue des musulmans, cette notion d'Europe n'est pas une notion très pertinente. Non pas qu'ils ignorent le concept, mais ce n'est pas ce qui compte pour eux. Leur arrière-plan géographique est plutôt la géographie de Ptolémée, n'est-ce pas, qui, plutôt que les continents, considère ce que Ptolémée appelait les climats et qui reste une notion très importante dans l'esprit des géographes et des historiens musulmans. Et donc, par rapport à cette géographie des climats, cette idée d'Europe ne veut pas dire grand-chose. Et il y a d'autres concepts, en revanche, qui sont importants. Alors peut-être qu'on... Je ne sais pas si c'est le moment d'y venir dès maintenant.
On va, je ne sais pas si vous vouliez parler de l'héritage romain, de l'Empire romain.
Il y a ça qui est important, en tout cas, et encore à l'époque ottomane. Effectivement, cette notion de Rome.
Oui, mais à cette époque, enfin, c'est plus complexe parce que Rome renvoie plutôt à l'idée byzantine, tandis que ce que nous appellerions nous l'Europe, c'est plutôt les Francs.
Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire.
C'est plutôt les Francs, donc Ifrange pour les Arabes, et les Ottomans parleront de Frangistan. Mais il y a aussi, malgré tout, cette notion qui est beaucoup plus générale, qui n'est pas géographiquement déterminée ou prédéterminée, qu'est la notion de Dar al-Harb, c'est-à-dire des pays infidèles qui ne sont pas encore sous la domination de l'islam.
Alors revenons, Henri Laurence, à la façon dont les auteurs arabes voient l'Europe dans les sources plus contemporaines. Mais effectivement, vous parliez au début des sources médiévales.
Oui, non, disons simplement que pendant très longtemps, même jusqu'au début du 19e siècle, même assez largement, au 19e siècle, c'est la vieille expression franque, frangi, etc., qui est utilisée. C'est au cours du 19e siècle que le mot européen devient d'usage courant dans les langues de l'islam. Alors, de l'autre côté, monde de l'islam, parce que
alors,
d'un
oui,
côté...
qu'on entend sous ce...
Bon, soit la notion un peu théologique de Dar el-Islam, la maison de l'islam, c'est-à-dire l'espace géographique qui est couvert par le monde de l'islam. Mais il faut bien voir qu'à l'époque médiévale et largement à l'époque ottomane, ceux qui sont en contact avec les Francs, ce sont les voisins immédiats, c'est-à-dire ton empire ottoman et éventuellement quelques puissances de l'océan Indien, quand les Portugais puis les Hollandais entrent dans l'océan Indien. Tandis que dans ma période, à partir, disons, de 1860-1880, il y a un nouveau mot qui commence à être utilisé, qui est monde musulman, et qui est tout simplement le résultat de la révolution des transports du 19e siècle. Pour simplifier outrageusement les choses, le monde musulman apparaît à partir de la création du canal de Suez. C'est-à-dire, c'est le moment où le système des communications modernes met en contact en direct les musulmans chinois, les musulmans indiens, les musulmans africains. Et il se apparaît une nouvelle conscience d'une collectivité qui n'est plus exactement le Dar el-Islam, mais qui est le monde musulman, et terme qui triomphe à la fin du XIXe siècle.
Alors, sur ces 15 siècles d'histoire que vous couvrez à vous trois, vous expliquez qu'il s'agit de 15 siècles de contacts continus et des plus variés, puisque l'objet de votre livre, c'est de retracer cette histoire vivante que vous évoquiez, Gilles Weinstein, et que ces contacts ont pris des formes extrêmement variées sur tous les plans économiques, culturels, artistiques. Alors, quels exemples pourriez-vous nous donner de ces contacts continus, en fait? C'est ce que votre livre montre.
Oui, et surtout que cette idée, enfin, qui n'est pas toujours explicitée, mais qui est présente dans les esprits, que la présence éventuellement inquiétante, menaçante de l'islam serait une chose récente, n'est-ce pas? Mais on a toujours eu cette impression à toutes les époques. Alors que, en fait, si on y regarde d'un peu plus près, on constate tout de suite que l'islam a toujours été présent dans l'histoire de l'Europe, qu'il s'agisse de l'Europe géographique dont on parlait il y a un instant, ou même de l'Europe limitée à l'Europe chrétienne. Bon, l'islam joue toujours un rôle très important et toujours très présent. Alors, vous nous demandiez des exemples de ces contacts.
Un exemple de contact auquel le public ne pourrait pas penser, par exemple.
Pour ce qui concerne la période moderne et où, pour les Européens, l'islam, ce n'est pas seulement, mais c'est avant tout les Turcs. Ce qu'ils ont tendance à appeler la Turquie, les Turcs, alors qu'il s'agit en fait de l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman, il n'est pas seulement en contact avec l'Europe, il est, je l'ai déjà dit, je le répète, en Europe. Il est une des puissances européennes de facto, même si pour les Européens, c'est une chose difficile à admettre. Mais il y a toujours dans les rapports entre l'islam et ses États chrétiens plusieurs plans et une ambivalence foncière. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'écrire, lorsqu'il s'agit d'exposer des théories politiques, on considère que c'est une anomalie, cette présence de l'islam en Europe, que c'est quelque chose finalement d'inacceptable. Et toutes sortes d'écrits de différentes natures et de différents se situant sur différents registres disent la chose. Mais dans la réalité, il y a bien sûr des contacts. On ne peut pas faire comme si cette puissance n'était pas là, d'autant plus que les rapports entre l'islam et ses États européens, entre l'Empire ottoman et ses États européens, largement déterminés par le fait que ces États européens ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis sur rien, et ils ne sont pas unis non plus, ou jamais totalement unis, contre ce scandale que représente la présence musulmane.
Et inversement, parce que la lecture de l'ouvrage montre que les alliances se font et se défont dans les deux parties, on va dire.
Oui, ils ne sont pas unis et dès lors, la tentation est grande de s'allier de manière plus ou moins explicite à cette grande puissance, ce qui peut être une façon, sinon de vaincre son ennemi entre puissances chrétiennes, en tout cas de faire pression sur son ennemi, n'est-ce pas ? Le seul fait de brandir la possibilité d'une intervention militaire ottomane à ses côtés est déjà une arme, n'est-ce pas, dans la lutte entre États chrétiens. Par conséquent, le facteur ottoman est un facteur absolument déterminant dans les relations internationales au niveau européen.
Henri Laurence, vous auriez un exemple de contact auquel on ne penserait pas ? Pas d'évidence, quoi.
Disons déjà que dès le XVIIIe siècle, la littérature orientale devient un élément essentiel de la littérature européenne. La date symbolique, même s'il y a déjà des phénomènes qui l'ont précédé, c'est la traduction des Mille et une nuits par Antoine Galland, du Collège de France d'ailleurs, en 1707, enfin, qui commence en 1707. À partir de ce moment-là, on passe d'une littérature qui est strictement européenne à une littérature universelle qui intègre les littératures dites orientales. Et la première, évidemment, ce sont les littératures musulmanes. Et à partir de cette date, vous avez un flux continu de traductions qui modèle l'imaginaire occidental. Il suffit de voir la richesse, au moins numérique, des contes orientaux dans la littérature européenne à partir du XVIIIe siècle, pas simplement des traductions. C'est devenu un genre littéraire entier. Et en soi, au XIXe siècle, le romantisme se nourrit aussi de littérature orientale pour de nouvelles formes poétiques, pour l'expression de l'imaginaire, ce qu'on appelle au sens large du terme, très large du terme, l'orientalisme, est devenu une des dimensions de la culture européenne.
Oui, ça, certainement. Les Mille et une nuits et le rôle d'Antoine Galland sont très importants. Déjà, avant ça, il y a eu la littérature de voyageurs.
Que vous évoquez,
des voyageurs
à l'époque moderne.
Occidentaux, puisque dans le cas des Mille et une nuits, c'est une œuvre orientale qui est traduite et qui est traduite avec beaucoup de poésie par Antoine Galland. Mais avant ça, dès la fin du XVe et surtout au XVIe siècle, à partir de la première moitié du XVIe siècle, il va y avoir des voyageurs dont les récits, tous ne seront pas édités, imprimés, mais certains le seront, et ceux qui le seront, seront en général des best-sellers. Hein. Il y a une vraie curiosité, il y a un vrai goût pour ces récits de voyage, qui d'ailleurs se répètent beaucoup, et donc il y a aussi des attentes obligées par rapport à ces textes. Mais on a calculé, n'est-ce pas, qu'il y avait eu au XVIe siècle, pour ce qui est de la littérature de voyage française, plus de voyages en Orient que dans le Nouveau Monde.
Oui, les livres parus, il fallait écrire à l'époque un livre sur la Turquie et pas sur l'Amérique.
Oui, ou en tout cas, on en a plus fait sur la Turquie. Et aussi, il faut bien le dire, sur d'autres pays musulmans. Parce que le monde musulman ne se réduit pas à l'Empire ottoman, même si c'est surtout quand même à travers l'Empire ottoman que l'islam est perçu par les Européens. Et donc, il y a aussi des voyages en Perse, hein, surtout au XVIIe siècle, qui auront beaucoup de succès et qui seront à l'origine, par exemple, des lettres persanes de Montesquieu. Donc, ces autres pays musulmans, aussi les grands moghols de l'Inde, ont un rôle dans la sensibilisation des Européens et dans l'imaginaire occidental, un rôle très important.
L'époque que vous traitez, Gilles Weinstein, c'est celle, vous expliquez, d'un partage islamo-chrétien, d'un partage territorial, d'un équilibre des puissances en Europe, avec une frontière, etc. Sur cet équilibre et sur ce partage qui n'était pas possible, c'est aussi, s'il y a partage, vous dites que c'est aussi parce que l'Europe et l'islam ont compris qu'à la fin du Moyen-Âge, aucune des deux religions ne l'emporterait sur l'autre.
Oui, mais c'est en ça aussi que, justement, les Ottomans transgressent, si vous voulez, cette espèce de règle qui est très implicite, n'est-ce pas, à l'islam, l'Orient et au christianisme, l'Occident, et plus précisément l'Europe. Et donc, par rapport à cette espèce de partage du monde, mais tout à fait implicite, bien entendu, qui n'est jamais explicité, les Ottomans transgressent, violent la règle, en étant présents en Europe et en prétendant avancer en Europe. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y ait une espèce de gentleman agreement. Il est violé par les Ottomans. Mais pour revenir à la littérature, pour revenir notamment à la littérature de voyage, elle apporte déjà cet exotisme que les traductions d'œuvres orientales vont apporter plus encore, et c'est l'origine des turqueries, notamment, dans les arts décoratifs. Mais aussi les voyageurs, et alors là, c'est peut-être plus important d'un point de vue philosophique, les voyageurs, ou certains d'entre eux, remettent en cause, jusqu'à un certain point, mais remettent en cause le rejet du monde musulman. Le rejet et le discrédit du monde musulman pour, au contraire, donner sur certains points, en exemple, non pas l'islam, hein, bien entendu, il ne peut pas être question de cela, mais en tout cas, ce que font des musulmans, et notamment ces Turcs de l'Empire ottoman.
Henri Laurence, sur ce point précis.
Ben, surtout, on passe progressivement à la notion de comparatisme. C'est ça qui est très intéressant dans cette littérature. Au début, on dit on est les meilleurs, ils sont les affreux. Et puis on commence. A priori. Et puis ensuite, on commence à comparer. Et comment qu'on se compare, on introduit de la distance par rapport à soi-même. Et en ce sens-là, l'islam et le monde musulman est nécessaire pour définir une nouvelle identité européenne, et en particulier à partir du milieu du XVIIIe siècle, quand s'introduit la notion de progrès, le monde de l'islam devient un élément de référence pour comprendre le progrès de l'Europe.
Henri Laurence, qu'est-ce qui se passe justement alors au XVIIIe siècle? Il y a un grand tournant sur lequel vous revenez dans l'ouvrage.
Pour simplifier les choses, disons qu'entre 1750 et 1800, il y a plus que l'émergence de l'État moderne européen, mais disons que l'État européen moderne, puissant, fiscalisé, se met brusquement en situation d'hyperpuissance par rapport au monde musulman, c'est-à-dire que l'Europe est capable d'envoyer des armées de quelques dizaines de milliers d'hommes très très loin, des milliers de kilomètres de distance, en Inde par exemple. Et ces forces armées sont capables de détruire en une seule bataille...
Ouais. Il y a une supériorité militaire évidente.
Oui, mais qui est plus liée à la puissance d'organisation qu'à l'armement. L'armement viendra plus tard. Je veux dire, c'est au milieu du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, où l'armement européen deviendra nettement supérieur. Ce qui est en cause vers 1800, c'est plutôt la capacité d'organisation que l'armement en lui-même, parce que l'armement, il est presque identique. Ce sont des mousquets, ce sont des canons, c'est encore de la production artisanale, etc. Alors, le second point, c'est comme d'habitude, comme on l'a dit tout à l'heure, les Européens ne peuvent pas s'entendre entre eux pour, cette fois-ci, se partager. Et donc, ce qu'on appelle la question d'Orient est en fait une lutte des puissances européennes entre elles. Toynbee a écrit au début des années 1920 un texte célèbre dans lequel il disait que la question d'Orient n'est qu'une question d'Occident. Et en ce sens, le monde de l'islam entre à l'intérieur de l'équilibre européen qui devient un équilibre mondial. C'est-à-dire, si telle puissance européenne s'empare de tel morceau, les autres doivent soit lui faire rendre le morceau, par exemple la guerre de Crimée, ou soit se donner des compensations à l'intérieur du monde musulman lui-même.
Des avantages commerciaux, militaires,
territoriaux, etc. Et en ce sens, l'espace politique de l'Europe cesse d'être limité à l'Europe.
À l'Europe elle-même.
Mais elle s'étend jusqu'aux frontières de la Chine.
Henri Laurence, si vous le voulez bien, marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants. Sur la domination de l'Europe sur l'islam, qu'est-ce qui a le plus joué?
Certainement que ce qui va promouvoir la domination de l'Europe, c'est l'État européen, comme vient de le dire Henri Laurence. Et par rapport à ça, il faut bien dire que les penseurs politiques européens et les voyageurs, même lorsqu'ils trouvaient certaines vertus à l'organisation sociale de l'Empire ottoman, et donc des Turcs, comme on disait, ils n'ont jamais donné en exemple le régime politique de l'Empire ottoman. Les jugements ont été plus ou moins critiques et virulents, mais en tout état de cause, on n'a jamais donné en exemple la façon dont le grand seigneur, le grand turc, gouvernait son empire. Qu'on ait trouver certaines justifications aux institutions politiques ottomanes, comme c'était le cas chez Bodin,
qui oui, vous parle avez...
d'une monarchie seigneuriale qui, comme telle, peut se défendre. Mais il y a eu, et ça, Henri Laurence l'a bien montré dans travaux antérieurs, la question du despotisme.
Du despotisme
donc,
orient.
Le grand seigneur, on l'a d'abord appelé un tyran, et puis on l'a ensuite appelé un despote, et on ne l'a jamais donné en exemple. C'est plutôt dans d'autres domaines que certains voyageurs ont trouvé que, tout infidèles qu'ils étaient, les Turcs se débrouillaient mieux que nous, n'est-ce pas ? Par exemple, en matière de justice, en matière
de méritocratie,
époques,
à un moment,
d'organisation militaire même. L'armée du Grand Turc, elle est mieux organisée, mieux disciplinée, moins... débauchés que les armées
de la propreté des camps, du silence.
Enfin, voyez, et même du point de vue, et là ça avait quand même une portée philosophique réelle, même du point de vue de la morale, de la fiabilité. Les Turcs pouvaient être meilleurs que les chrétiens.
Si vous voulez par exemple, Voltaire qui plutôt dans le cadre de l'idéologie du progrès,
est un peu ambigu.
Utilisera à la fois l'islam pour attaquer le christianisme, mais aussi sera assez péjoratif sur les institutions musulmanes, parce que justement, lui, il est dans la pensée du progrès, tandis que Rousseau trouvera chez les musulmans une honnêteté et une moralité qui n'existent plus dans l'Europe corrompue. Donc, c'est cet aspect-là qui est catapant.
Et là, ce type de regard sur le monde musulman est important dans la mesure où il ne met pas, entre parenthèses, la différence religieuse comme le font les autres types de relations, n'est-ce pas ? On a des relations diplomatiques avec les Turcs parce que, nous l'expliquions tout à l'heure, ils sont là et ils comptent et qu'on peut trouver des appuis chez eux. Donc on a des relations diplomatiques. On a des relations commerciales, bien entendu. Hein. On n'a pas parlé de toute l'importance dans les économies européennes modernes de ce qu'on appelait le Levant, qui n'était pas la seule destination commerciale, notamment avec le développement du commerce américain. Mais malgré tout, ça comptait à la fois comme source d'importation et comme débouché pour les industries européennes de l'époque. Mais tout ce type de relation n'implique pas qu'on rompe, si vous voulez, avec l'ostracisme de principe contre l'islam. Seulement, on le met entre parenthèses. On ne s'occupe pas des antagonismes religieux quand il s'agit de faire de la diplomatie ou quand il s'agit de faire du commerce. En revanche, à partir du moment où on trouve certaines qualités, morales notamment, à ces infidèles, on ne met plus entre parenthèses la différence culturelle. Mais véritablement, on l'aborde de front. Et c'est là que le comparatisme et même le relativisme qui peut en découler ont une valeur philosophique que n'avaient pas les autres types de relations avec l'islam.
Henri Laurence, on va faire un saut chronologique sur le 19e siècle. Dans l'histoire de l'Europe, le principe des nationalités a une immense importance et les Arabes sont exclus de ce principe de nationalité au 19e siècle. Et même un peu après, ça va avoir une immense importance pour l'Empire ottoman, bien sûr, et pour l'histoire de ces peuples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça va redéfinir un nouveau rapport de force dans cet espace méditerranéen?
Nous sommes dans le grand moment historique de la colonisation et de l'impérialisme européen. Il y a un non-dit, parce que vous le trouvez dans aucun texte, qui est qu'on ne colonise pas un pays chrétien, à l'exception de l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie a battu les Italiens, il a fallu attendre 1935 pour qu'on colonise pour une première fois. Donc vous avez une partie, justement, l'Europe ex-musulmane de Gilles Weinstein, c'est-à-dire la péninsule balkanique, elle est majoritairement chrétienne. Donc on va lui appliquer le principe des nationalités. Ce sera ce qu'on appelle la balkanisation, avec son cortège de violences terribles, de nettoyage ethnique, etc., qui commence dès les années 1820.
Je ne vous ai pas laissé parler, Gilles Weinstein, de cette partie de l'Europe sous domination ottomane. On n'a pas expliqué comment ça s'était passé, comment avaient cohabité les minorités ou les populations entre elles dans cette partie de l'Europe sous domination ottomane.
Et comme vient de le dire Henri Laurence, jusqu'à la fin, cette Europe ottomane, entre guillemets, elle restera, sur le plan démographique, à majorité chrétienne, si vous voulez. Elle ne s'est pas accompagnée, contrairement à ce qui s'était passé en Asie mineure au Moyen-Âge, d'une turquification ou et d'une islamisation. En fait, la pluralité ethnique et confessionnelle a subsisté. Bien sûr, il y a eu des conversions, et dans certaines régions plus que dans d'autres, et on en voit encore l'héritage aujourd'hui, si on considère le cas de la Bosnie, par exemple, ou le cas de l'Albanie. Tout ça, ce sont des restes, si vous voulez, des conversions qui ont eu lieu, non pas comme en général, pas comme on se les représente un peu traditionnellement, parce qu'on aurait dit aux populations « c'est le Coran ou la mort ». Ce n'est pas du tout comme ça que ces conversions se sont passées. Mais toujours est-il que c'est vrai que ces populations vivent sous une domination musulmane, que l'islam est la religion des maîtres, mais l'islam n'est pas du tout majoritaire. Démographiquement, il y a des régions entières de cette Europe ottomane où il n'y a pas un seul musulman. Et c'est le cas, par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, dans les îles grecques. Et les différentes communautés ont gardé, je ne dis pas que ça a toujours été rose, mais enfin, ont gardé, malgré tout, leur organisation religieuse. C'est surtout le cas des orthodoxes, qui sont les plus nombreux, mais il y a aussi des catholiques, il y a des juifs, il y a des arméniens. Toutes ces populations ont gardé une identité communautaire, si vous voulez, et des institutions religieuses qui n'ont pas été remises en cause par la domination ottomane. Donc ça donne quelque chose d'assez particulier, d'assez divisé, morcelé, même si en même temps, du fait de la coexistence pendant des siècles, il y a une certaine osmose et un certain syncrétisme culturel et même religieux qui s'instaure, parce que même si chacun sait bien ce qu'il est, sait bien qu'il est catholique ou qu'il est orthodoxe, il y a des fêtes communes, il y a des saints communs, il y a aussi dans d'autres domaines culturels, disons que le domaine religieux proprement dit, toutes sortes d'échanges qui se font dans le domaine culinaire, dans le domaine du vêtement, dans le domaine de l'architecture domestique, si vous voulez. Et tout ça fait qu'émerge une espèce de culture ottomane des Balkans, disons, qui est une culture très syncrétique, où les éléments orientaux, bien sûr, sont importants, mais où les éléments balkaniques aussi sont importants, et une culture qui va être abandonnée, qui va être discréditée, puisque pour les peuples balkaniques, elle est synonyme du passé ottoman, du joug ottomans, comme ils disent, et que, au contraire, ces peuples, une fois affranchis, auront, en tout cas comme objectif, ça ne correspond pas toujours aux réalités, l'envie d'être considérés comme européens, c'est-à-dire comme occidentaux, le plus possible.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'être occidentaux, justement, au XIXe siècle, Henri Laurence, ce principe des nationalités qui s'impose, comment va-t-il être récupéré ?
Il y a différentes situations. Le principe de nationalité, il s'applique aux Balkans parce que les Balkans sont majoritairement chrétiens. Il ne s'applique pas ailleurs. Et donc, ce que vous avez dans le reste du monde musulman par rapport à l'Europe, c'est soit une colonisation, comme par exemple en Afrique du Nord, soit un État musulman réformé et dominé par les puissances européennes et occidentales, puisque à partir des années 1830-1840, les États-Unis sont un partenaire mineur des puissances européennes, mais un partenaire quand même dans le monde musulman. C'est pour ça qu'on doit dire occidental, parce qu'il ne faut pas oublier le petit acteur américain qui existe déjà au milieu du 19e siècle. Alors là, les Européens se présentent d'un côté comme divisés, et les puissances musulmanes, pour tenir, jouent sur les divisions européennes. Ils jouent les Français contre les Anglais contre les Russes, les Allemands contre les Français, et ainsi de suite. Mais en même temps, les Européens se présentent unis, c'est-à-dire comme une puissance collective qui régit cette période. Les grands congrès européens du 19e siècle, comme par exemple le congrès de Paris 1856 ou le congrès de Berlin de 1878, sont des réunions européennes pour décider du sort du monde musulman. Et là, donc, les Européens apparaissent comme collectifs. Et au-delà, nous sommes dans une domination collective de l'Europe sur le monde musulman. Alors, du côté musulman, il y a à la fois un choc terrible, d'abord narcissique, parce que normalement, l'islam, c'est la meilleure des sociétés. Comment se fait-il que les Européens ont une telle puissance alors que nous, nous avons la vraie religion ? Donc, d'un côté, on va chercher à trouver les secrets de la puissance européenne, donc en particulier d'acquérir les instruments de l'État moderne par un système de réforme de la société, de la réforme de l'État. Et d'autre part, on est évidemment dans une résistance à cette domination européenne. On est classiquement, avec évidemment les différentes modalités selon les régions ou selon les époques, dans un rapport d'amour-haine, ici à la fois dans une extrême attirance, parce que l'Europe est puissante et en même temps, elle est extrêmement attractive. Elle est tout simplement la modernité. Et elle est en même temps l'ennemi, puisque tout simplement, elle vient vous envahir, violer votre territoire, s'emparer de vous-même et même s'infiltrer dans votre vie quotidienne. Ça, c'est pour le 19e siècle. Alors, au 20e siècle, les choses vont un peu se modifier parce que d'abord, le modèle européen après la Première Guerre mondiale va s'affaiblir. La modernité n'est plus en Europe, elle est aux États-Unis. Et on aura paradoxalement des Européens qui vont essayer de se rapprocher du monde musulman parce que le monde musulman qu'on va appeler Méditerranée à ce moment-là, et non plus Orient, c'est une vieille culture comme la vieille culture européenne avec laquelle on peut s'opposer à la civilisation moderne techniciste représentée par les États-Unis. Hein, on a ça chez Paul Valéry, chez Camus, etc. Et donc, il y a des civilisations à dimension humaine qui sont les vieilles civilisations européennes et musulmanes. Et puis, il y a la technicité, horreur. Absolument, les scènes de la vie moderne de Georges Duhamel. Et en même temps, après la Première Guerre mondiale, commence le grand mouvement d'affranchissement politique du monde musulman. La République de Turquie après 1922, l'Iran, l'Égypte, l'Irak entrent à la Société des Nations. Ils sont maintenant en position d'égalité juridique avec les Européens.
Je voudrais qu'on aborde l'islam européen de la partie, on va dire, récente, mais je voudrais aussi vous faire intervenir.
Je pourrais peut-être dire un mot à propos du nationalisme.
Oui.
Parce que ce nationalisme, qui va être un facteur absolument déterminant dans la période contemporaine, c'est une idée européenne, ce nationalisme, même si elle aura un effet boomerang sur l'Europe, hein, comme cela a été expliqué. Or, c'est une idée qui est totalement étrangère aux empires du passé, et notamment à ce dernier grand empire du passé, et d'une certaine manière héritier de Rome et de Byzance, n'est-ce pas, qu'était l'Empire ottoman, dans la mesure où ces empires sont totalement étrangers à l'idée nationaliste. C'est l'idée de nationalisme qui leur est totalement étrangère. Et les regards rétrospectifs qu'on portera sur un empire comme l'Empire ottoman sont faussés par, disons, cette vision nationaliste des choses. L'Empire ottoman n'était pas un empire turc, même si la dynastie était partiellement turque, puisque même les sultans faisaient leurs enfants et donc leurs héritiers et assuraient la pérennité de leur dynastie avec des femmes qui n'étaient pas turques. Et donc, il y a un mélange racial, si vous voulez, qui est tout à fait à la base de la nature même de cette dynastie. Et donc, la lecture en termes nationaux de cette histoire est la lecture que l'on fait spontanément et qui est par nature fausse, une lecture fausse. Une fois que la, avec beaucoup de guillemets, la peste nationaliste aura gagné l'Empire ottoman et les différentes nations les unes après les autres, ou disons qui se construiront en fonction de ce concept de nationalisme, les chrétiens d'abord et les musulmans in fine, puisque l'Empire ottoman se heurtera également à des nationalismes musulmans, nationalisme arabe qui sera le plus important, et aussi par exemple le nationalisme albanais. Mais ces nationalismes viendront in fine, seront les plus tardivement éclos. Et d'ailleurs, parmi ces nationalismes qui apparaîtront tardivement et qui ne sera pas moins virulent que les autres, il y aura le nationalisme turc lui-même, mais qui est un phénomène tardif et un phénomène finalement fruit de l'influence occidentale.
Alors, il y a eu des empires, mais aussi des empires coloniaux européens. Et les empires coloniaux, c'est aussi la circulation des êtres humains. Alors, dès la fin du XIXe siècle, vous avez d'une part des élites, c'est-à-dire simplement les rejetons des grandes familles locales envoient leurs enfants dans les universités européennes. Les premiers musulmans modernes en Europe ou en Grande-Bretagne, en France, etc., sont simplement des jeunes gens qui viennent prendre le savoir moderne dans les universités européennes. Et dès les années 1890, vous avez des étudiants musulmans, comme il y en a encore aujourd'hui. Ça deviendra une composante du monde étudiant européen. À partir de la Première Guerre mondiale, vous avez aussi une immigration de main-d'œuvre. Mort tout simplement, dans le cas de la France, c'est parce qu'il fallait remplacer les combattants qui étaient partis dans les tranchées et mettre d'autres gens dans les usines. On a fait venir des Chinois, des Annamites, on fait venir évidemment des Nord-Africains, en particulier des Algériens. Et donc, il y aura maintenant, à partir de l'entre-deux-guerres, une fraction du prolétariat ouvrier européen qui sera d'origine musulmane. Et ceci va continuer à travers les Trente Glorieuses du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on aura une double composante qui est encore le cas aujourd'hui. D'un côté, vous avez une nébuleuse d'intellectuels, des gens qui sont allés faire des études supérieures en Europe, dont une partie se sont installés définitivement en Europe, souvent pour des raisons politiques, parce que ce sont tout simplement des exilés politiques après les coups d'État, les révolutions dans notre propre pays. Et puis de l'autre côté, vous avez une population musulmane issue du prolétariat ouvrier européen. Et ces deux mondes sont en même temps en communication, mais en même temps sont extrêmement distants l'un de l'autre. C'est ça la complexité du réel.
L'islam européen, si on le regarde dans toute l'étendue de l'Europe, et non pas seulement, comme vient de le faire mon collègue Laurence, en Europe occidentale. Il est extrêmement complexe, cet islam européen, puisqu'il y a la composante qu'il vient d'analyser, à la fois d'immigration de main-d'œuvre et d'intellectuels. Et puis, il y a, à l'est de l'Europe, cet autre islam européen, qu'est l'islam, enfin ce que Alexandre Popovitch a appelé l'islam balkanique, qui est un héritage de l'Empire ottoman et qui par conséquent a une genèse totalement différente. Et ces deux islams, ou ces trois islams, puisqu'on en est à trois, ont été jusqu'à maintenant très éloignés les uns des autres et avec fort peu de communication, ce qui, d'une certaine manière, les réunit peut-être davantage aujourd'hui, c'est l'islamisme et les promoteurs de cet islamisme dans le monde musulman et en particulier...
Henri Laurence.
Alors, pour revenir d'abord sur ce point, il y a aussi un courant de conversion d'Européens à l'islam. Et là encore, on tombe sur la même dichotomie de tout à l'heure. Vous avez un courant de conversion dans les milieux intellectuels, via par exemple le soufisme, des personnalités culturelles comme Béjart, par exemple, se sont convertis à l'islam. Et puis de l'autre côté, vous avez un courant de conversion dans le monde ouvrier, prolétarien, plus par contact social qu'autre chose.
Et puis par mariage aussi, mariage. Parce qu'il y a beaucoup de...
Oui, mais ça fonctionne de l'autre côté aussi. Et puis, là, pour revenir à l'autre question, si on parle maintenant du projet politique d'Union européenne, au départ, l'Europe des Six, etc., jusqu'à 1981, c'était l'Europe catholique et protestante. Alors, évidemment, il y avait ces populations musulmanes dans cette Europe de l'Ouest et du Nord, mais on était dans un monde dominé culturellement par le catholicisme et le protestantisme, alors qu'il y avait tous les caractères européens classiques. C'est-à-dire, c'est un monde qui pouvait se revendiquer de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, du Baroque, du classicisme. Enfin, ils avaient tout pour plaire. C'était des vrais Européens. Mais à partir du moment, dans les années 80, on a accepté la Grèce dans l'Union européenne. On a fait entrer le monde balkanique de mon collègue. Alors là, vous n'avez plus de baroque, de classicisme, de Moyen-Âge, etc. Les Grecs ont rejoint l'Europe au romantisme, exclusivement. Et à partir du moment où, justement, l'Union européenne s'étend aux Balkans, ce qui est la phase actuelle, puisque la majorité des Balkans est entrée ou va entrer très prochainement dans l'Union, l'Europe ne peut plus être définie stricto sensu par un héritage culturel qui irait de l'Antiquité à nos jours en passant par un parcours d'obstacles des grandes phases des manuels de littérature, mais bien par le fait qu'on a aussi intégré dans l'Europe une Europe orthodoxe, une Europe musulmane, et de ce fait même, nous n'arrivons plus à définir les frontières de l'Europe, puisque d'un côté, si l'Europe est aussi orthodoxe, bah l'Europe pourrait aller jusqu'à Vladivostok. Et d'autre part, si l'Europe est musulmane, jusqu'où peut-elle aller? Et c'est bien, je ne dis pas la question du malaise, mais des interrogations contemporaines. Et je crois que dans les années 1980, nos responsables politiques ne sont absolument pas poser ce type de questions.
Non, et puis d'ailleurs,
Sylvain Stein,
d'autant moins peut-être. Effectivement, on n'a pas mesuré ce que signifiait l'entrée de la Grèce en Europe. Et on l'a d'autant moins mesuré qu'on était dans un autre monde, puisque l'Europe était divisée elle-même entre les blocs. Et par conséquent, les choses ne se présentaient pas du tout de la même façon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à donner un fondement objectif, si vous voulez, qui soit historique ou géographique, au projet politique européen. Et en fait, on ne peut pas le concevoir autrement que comme un projet politique, justement, et qui ne s'appuie que sur une volonté politique et dont, au contraire, les fondements objectifs dans la réalité des choses sont illusoires et s'avèrent illusoires.
Et alors, je crois surtout,
Henri Laurence,
pour bien comprendre les réalités, disons, du XXIe siècle, c'est qu'on ne peut plus penser le monde musulman et l'Europe en termes d'opposition. Parce que d'un côté, évidemment, le monde musulman, enfin l'islam, est devenu une des multiples composantes de l'Europe. Mais aussi parce que depuis deux siècles, disons, les mouvements dits de modernisation, qui ont été aussi des mouvements d'occidentalisation, d'apparénisation dans le monde musulman, ont introduit une immensité de données culturelles européennes à l'intérieur de ce monde. Si des Européens rejettent l'islam, ils rejettent une partie d'eux-mêmes, et si des musulmans rejettent l'Europe, ils rejettent une partie d'eux-mêmes aussi. Je crois que pour les deux mondes, justement, se penser en opposition, c'est commencer à se penser en négation de soi-même.
Votre ouvrage, justement, peut-il aider à comprendre l'entrée ou non de la Turquie dans l'Union européenne?
C'est certainement pas à nous de trancher de ce sujet, mais ce que nous pouvons affirmer avec une certaine validité scientifique, c'est que la République de la Turquie n'est que la continuation de l'Europe balkanique, de par son histoire, de par son peuplement, même s'il y a eu d'énormes transformations humaines dans des conditions absolument tragiques au début du XXe siècle. Et c'est bien pour cette raison que nous ne pouvons pas rejeter la République de Turquie au nom d'affirmations culturelles ou religieuses. En revanche, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne pose de redoutables problèmes géopolitiques, parce que ça voudrait dire que l'Europe a tranché sur ses frontières avec l'Iran, avec la Syrie, la gestion des eaux de l'Euphrate. Enfin, il y a un kilomètre de très gros problèmes géopolitiques extrêmement douloureux du monde contemporain, et la question est de savoir si les institutions européennes actuelles sont capables de gérer de telles situations.
Oui, l'avenir de la construction européenne, plus exactement, n'est pas une question à laquelle les historiens peuvent apporter une réponse. Ce n'est pas une question historique, puisque c'est un projet qui n'a pas d'équivalent, qui n'a pas de précédent dans l'histoire. Et certaines formulations sont fautives à cet égard. Quand on parle, de, par exemple, de réunir l'Europe, l'Europe n'a jamais été unie. C'est donc une nouveauté, et c'est une nouveauté qui relève du volontarisme politique. En revanche, ce que les historiens peuvent quand même, et notre livre, j'espère, en apporte la démonstration, peuvent tout de même dire pour contribuer à ce débat, c'est que tous ceux qui disent et qui répètent que la Turquie n'a pas d'histoire commune avec l'Europe, n'est-ce pas ? Bon, laissons de côté la géographie. Bon, malgré tout, Istanbul est bien en Europe. C'est même, je pense, peut-être la plus grande ville européenne à l'heure actuelle, et elle sera capitale européenne de la culture. Mais laissons de côté la question géographique. En tous les cas, l'idée qu'il n'y aurait pas d'histoire commune entre la Turquie et l'Europe est une idée fausse. Et je pense que nous les démontrons amplement. Bon, pour le reste, encore une fois, la contribution des historiens au débat a ses limites.
Merci Henri Laurence et Gilles Weinstein. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Europe et l'Islam, 15 siècles d'histoire, écrit avec aussi John Tolland pour la partie médiévale, publié chez Odile Jacob en février 2009. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Thank you.